Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime. On est comme tous les jours en compagnie de Justine Vigneault, Laure Broulard qui m'aide à préparer les émissions que je vous présente tous les jours sur l'antenne d'RTL. C'est Alexandre Cagzan qui est à la technique de notre émission aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais juste dire qu'on a une pensée très amicale pour nos confrères de France Info, de France Inter, avec cet incendie qui est en cours. Vous avez suivi évidemment dans le flash à l'instant. On continuera bien sûr à vous tenir au courant de ce qui se passe là-bas dans la maison ronde. Voilà, on pense à eux parce que effectivement l'outil de travail est abîmé, comme on dit. Et aujourd'hui à la une de ce magazine, nous allons évoquer des morts violentes, des assassinats, mais aussi des suicides, des morts mystérieuses qui ont touché des hommes et des femmes de pouvoir d'ailleurs, parce que mon invité Dominique Labarrière, qui est journaliste indépendant, a publié cette semaine un livre que je trouve absolument passionnant et remarquable aux éditions de la Table Ronde. Ça s'appelle « Quand la politique tue ». Excellente idée de revenir sur ces événements qui ont bouleversé la France à différentes époques de notre histoire, pour aller au-delà du simple fait divers, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout de donner également des pistes sur la personnalité des victimes qu'on oublie largement à cause de l'horreur des drames. Bonjour Dominique Labarrière.
Bonjour Jacques Pradel.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va donner tout de suite un exemple parce que vous avez classé ces morts, alors toutes violentes mais pas toutes des assassinats, il y a des suicides bien sûr, et il y a quand même des affaires sur lesquelles règnent encore aujourd'hui des énormes zones d'ombre. On va en parler tout à l'heure à propos de l'assassinat, à propos du suicide, oui, de la mort au palais de l'Élysée de François de Grossouffle. Oui. Certains considèrent que c'est un assassinat. Vous avez voulu ouvrir votre livre avec ceux qui sont morts à cause de la haine, en fait.
Oui, c'est ça. À cause d'idées mal digérées, mal intégrées, et de la haine qui peut naître de la politique. Oui. On dit souvent la politique est un jeu, mais quand ce jeu se met à déraper du côté de la haine, ça devient un drame, une catastrophe. Oui. Donc ils sont trois à avoir payé le grand prix de la haine. Hein, c'est Carnot, oui, c'est Jaurès, bien sûr, et c'est Doumer.
Et c'est Doumer. Et en fait, alors il y a dans les auteurs de ces drames, on le sait pour Jaurès, on a évoqué cette affaire il n'y a pas très longtemps ici dans l'heure du crime. C'est ce qui a été retenu d'ailleurs par la justice comme un crime passionnel politique, puisque oui, l'assassin Raoul Villain a été acquitté. Oui. Sadi Carnot, ce sont les anarchistes.
Oui, c'est un anarchiste. Caserio est un personnage absolument fabuleux. C'est un type qui a 20 ans, vous vous rendez compte, un gosse de 20 ans, ouvrier boulanger d'origine italienne, qui travaille à 7. Son parcours est très intéressant et qui va avec une détermination effrayante, mais aussi un peu admirable, assassiner Carnot. Il vient de Sète par le train, il fait les 30 derniers kilomètres à pied parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le train jusqu'au bout, et malgré tout cet après-midi de marche à pied, il ne va pas perdre de sa résolution, de sa pugnacité, il va assassiner Carnot. Ouais,
et il va revendiquer jusqu'au bout, pendant son procès. Il ne veut pas, parce que ses avocats, évidemment, veulent dire que, bon, c'était un coup de folie, il était certainement pas dans son état normal.
Maladie vénérienne.
Pas du tout.
Non, il refuse,
dans sa famille,
il veut l'échafaud. Ouais, il le veut. Et il le veut rapidement. C'est-à-dire qu'il repousse toutes les mesures qui pourraient faire gagner du temps, le recours en grâce, tout ça. Il n'en veut pas. Il veut assumer son destin. Une sorte de suicide comme ça, d'assassinat suicidaire.
Oui. Ouais. Et avec des conséquences, alors j'allais dire sur la société, oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir une chasse à l'italien. Moi, j'avais oublié un peu cet aspect des choses sur lequel vous revenez longuement dans le livre. Oui.
J'y tenais beaucoup, c'est-à-dire que ce crime anarchiste est contre-productif, d'abord pour deux raisons. Une raison politique, c'est qu'il va générer la troisième des lois scélérates, vous savez, celle qui fait qu'on ne peut plus parler des actes terroristes, que ce qu'il dira au procès ne sera pas repris par la presse. Et puis surtout, ça va développer un racisme anti-italien extrêmement fort et qui va durer très très longtemps. Mmh. Dès le soir de l'assassinat de Carnot, tout ce qui à Lyon, puisque l'assassinat est perpétré à Lyon, non seulement italien, mais consonance italienne, est chassé pour chasser. Il y a des familles italiennes qui devront refranchir la frontière pour, dans les jours qui
suivent. Pour ne pas être lynché, quoi, voilà. En fait. Ouais. Alors que vous évoquiez Paul Doumer, Paul Doumer, alors, est-ce que c'est un illuminé ou est-ce que c'est là aussi la haine politique, Gorgoulov, qui est un russe qui a refusé la révolution, qui s'est battu contre les bolcheviks, etc., qui va venir assassiner Paul Doumer, alors que Paul Doumer assiste à une signature d'un salon littéraire Paris. Littéraire. Hein, celui des rescapés de la Première Guerre mondiale.
Oui, des écrivains combattants. Il y a Genevoix, il y a Barère, tout ça. Gorgoulov, l'assassin de Doumer, c'est l'opposé de Caserio. Oui. C'est-à-dire, c'est un type extrêmement confus dans sa tête, qui lui, au contraire, va chercher tous les moyens de retarder l'échéance de l'échafaud. Et alors, on ne sait pas si c'est un simulateur ou un exalté. Figurez-vous qu'il est président du parti fasciste russe, et il est d'autant plus président qu'il est le seul membre. Ouais. Il a créé un... Alors, il est là, il est dans une sorte de délire.
Une sorte de médecin...
médecin véreux. Polygame. Il a plusieurs femmes, enfin, très louche, très trouble, qui passe son temps ou à prier ou à saouler. Voilà, il est dostoïevskien, si vous voulez. C'est un russe à l'âme slave, un peu fou. Alors, on ne sait pas.
Jamais il donnera son mobile profond.
Il dira, vous savez, je reproche à la France d'avoir reconnu les bolcheviks. Oui, et puis de ne pas avoir envoyé l'armée lutter pour le tsar. Bon, c'est un peu ça. Mais là, on assiste à quelque chose d'un très intéressant que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire que la communauté russe ne veut pas que se reproduise ce qui s'est passé avec l'assassinat de Carnot 30 ans plus tôt. Tout de suite, elle condamne le geste. Et tout de suite, elle va s'associer.
Il y a des messes orthodoxes à la mémoire du président.
Voilà. Il y a des messes orthodoxes. Les jeunes russes, il y a 80 associations russes à ce moment-là à Paris. Il y a une communauté russe très importante. Vont défiler en mémoire du président Doumer. Il y a un officier russe qui se jette d'une fenêtre. Aussitôt, on dit que c'est par honte pour le geste qui a été commis. Ouais. Donc là, on a su éviter le racisme.
Il n'y a pas de chasse aux Russes blancs.
Il n'y a pas de chasse aux
Russes blancs. Comme les éditoriaux du journal du Parti communiste à l'époque, faut bien le dire, en étant pleine, évidemment, guerre entre les bolcheviks et
mais l'humanité essayait de mettre de l'huile sur le feu, mais sans succès.
Ça n'a pas fonctionné. Alors, évidemment, on ne va pas faire tout le livre. Moi, je recommande vraiment à ceux qui nous écoutent de plonger dans ces histoires, parce qu'elles sont faites pour ça, pour qu'on comprenne mieux qui est à la fois la victime, d'où il vient, comment il est arrivé là, parce qu'on parlait de Paul Doumer, vraiment. Vous dites d'ailleurs, ça me revient en vous parlant, que c'est sous sa présidence qu'on a utilisé cette fameuse expression « un président, ça sert à inaugurer des chrysanthèmes ».
Voilà, alors on le dit en dérision aujourd'hui, mais ça a été voulu. Il est pour un régime très parlementaire.
Oui, voilà, donc...
c'est cohérent. Pour lui, c'est
fait les inaugurations, les salons du livre, ça lui a porté évidemment malheur.
Itinéraire flamboyant, Doumer. C'est-à-dire, il est fils d'ouvrier poseur de rail. Oui. Et son père meurt très jeune et il fait vivre sa famille très tôt.
Alors, c'est vraiment l'ascenseur social, exemple extraordinaire. Voilà. Alors, il y a évidemment toutes vous dites d'ailleurs que c'est pour des gens qui sont morts pour l'honneur. C'est Roger Saint-Lingrois après une campagne de presse absolument terrible. Là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il se soit tué. Voilà, bon, Pierre Bérégovoy, on ne va pas y revenir. Vous étiez venu ici parce que vous aviez consacré tout un livre à son histoire. Puis, alors, Robert Boulin, en fait, et François de Grossouvre, il y a ce point d'interrogation. La famille de Robert Boulin est persuadée que c'est un assassinat politique pour raison d'État, quoi, en fait.
Oui. Alors, elle l'est persuadée après avoir été persuadée du contraire, de corriger cette chose-là. Mais c'est ça aussi qui a embrouillé l'affaire Boulin dès le départ. C'est-à-dire que Robert Boulin, donc, est trouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. Mmh. Et dans l'année qui suit, un an après, son fils Bertrand Boulin publie un livre sur le suicide de son père. Et dans ce livre, il va très loin. Il dit « Ceux qui parlent d'assassinat salissent la mémoire de
et
mon
puis
père ».
Il revient parce qu'il y a une contre-enquête d'un journaliste, Benoît Colombin, qui est un remarquable journaliste d'investigation.
Oui, Benoît.
Et qui ils vont relever, je ne sais plus combien, 70 ou 80 indices.
C'est-à-dire dans le timing exact, il se produit une chose, c'est-à-dire que la famille Boulin prend Robert Badinter comme conseil. Robert Badinter arrive à exhumer des photos sur lesquelles on voit le visage de Robert Boulin,
avec des ecchymoses, oui, voilà.
Alors, on se dit, c'est pas normal, si c'est un suicide. Et là, le doute commence à cheminer. La famille veut en savoir plus. Et recoupe l'enquête de remarquable de Benoît Colomba, notre confrère de France Inter, auquel nous pensons aujourd'hui. Benoît Colomba relève, oui, c'est ça, de 70 anomalies.
Et la veuve de Robert Boulin a déposé plainte pour assassinat. Alors, on en reparlera peut-être si on a le temps d'ici la fin de l'émission. On évoquera aussi celui qui est seul dans son chapitre, parce que vous savez, dont le titre est « Mort pour rien » avec un point d'interrogation. Joseph Fontanet, un homme politique peut-être bien oublié aujourd'hui, mais on parlera de lui tout à l'heure. Il rentre de week-end un dimanche soir, il est au pied de son immeuble, ceux qui sont dans la voiture montent pour ranger. Lui, il reste parce que dans le coffre, il y a encore des choses à monter. Et puis des coups de feu. Et il est mort. Alors, qui l'a tué? On ne comprend pas le mobile. Donc, peut-être erreur sur la personne. En tout cas, dans un tout petit instant, nous allons vraiment aller au cœur de ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui. L'affaire de la mort de François de Grossouvre. On va en parler avec vous un petit peu plus tard dans l'émission. Et c'est un privilège aussi. Et on est ravis. Nous aurons Claude Cancès, l'ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, de la PJ parisienne, qui a été chargé de l'enquête. Donc, qui s'est retrouvé à l'Élysée quelques dizaines de minutes, quelques moins d'une heure après qu'on ait constaté la mort de François de Grossouvre. Dans un tout petit instant, après la pause qui s'annonce depuis quelques secondes, on va se rafraîchir la mémoire et je vous raconterai les circonstances dans lesquelles on a découvert ce drame.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Palais de l'Élysée, 7 avril 1994, 19h50. Le garde du corps et le chauffeur de François de Grossouvre découvrent le corps sans vie du conseiller du président au premier étage de l'aile ouest de ce que tout le monde appelle là-bas le château. Étonné de son retard alors qu'il devait les rejoindre pour se rendre à un dîner prévu de longue date et d'ailleurs qu'il avait confirmé le jour même, les deux hommes étaient venus aux nouvelles, ils avaient frappé à la porte du bureau. En l'absence de réponse, ils avaient fini par entrer et ils avaient découvert le cadavre du président des chasses présidentielles effondré sur son fauteuil, la mâchoire arrachée par une balle de fort calibre. La scène qui s'offre à eux est terrible. Du sang partout, par terre, sur les murs et même jusqu'au plafond de la petite pièce. Le décès de François de Grossouvre est constaté quelques instants plus tard par le médecin militaire détaché à l'Élysée, le docteur Calfon. À cette même heure, François Mitterrand revient, lui, d'une visite à l'hôpital Cochin où il a rencontré des malades atteints du sida. Et il doit dîner ensuite avec d'éminents spécialistes de cette maladie. Son directeur de cabinet, Pierre Chassigneux, vient l'informer personnellement du drame qu'on vient de découvrir. Une heure plus tard, le procureur du parquet de Paris est informé. Il charge aussitôt de l'enquête d'essai le directeur de la PJ du 36 Quai des Orfèvres, Claude Cancès, que nous aurons en ligne tout à l'heure. Pendant ce temps, François Mitterrand prévient personnellement par téléphone les membres de la famille Grossouvre, sa femme et ses trois enfants. Peu après 23 heures, plus de 3 heures donc, après la découverte du corps, un communiqué officiel de l'Élysée est publié dans des termes laconiques. Il dit exactement ceci, je lis: François de Grossouvre, président du comité des chasses présidentielles, s'est donné la mort ce jeudi 7 avril, en fin de journée, dans son bureau. Conformément aux règles habituelles, le parquet de Paris, qui s'est rendu sur les lieux, a prescrit à la police judiciaire de diligenter l'enquête d'essai prévue par l'article 74 du Code de procédure pénale. Quelques instants plus tard sur RTL, Véronique Salmant annonce le drame dans son journal du soir.
Il était un ami de 30 ans du président de la République, François Mitterrand. François de Grossouvre s'est donné la mort ce soir même, à 76 ans, dans son bureau à l'Élysée. C'est ce qu'a précisé de manière très laconique le médecin qui a constaté le décès de cet ancien conseiller à la présidence. François de Grossouvre occupait encore les fonctions de directeur des chasses présidentielles. Il semble qu'il était très fatigué depuis quelques jours. C'est en tout cas la première chose qu'on a été en mesure de dire pour expliquer son geste. Édouard Acosta, vous êtes sur place à l'Élysée?
Oui, écoutez, Attendez, il n'y a pas de signe particulier d'agitation en ce moment autour du palais de l'Élysée. Impossible de pénétrer à l'intérieur de l'édifice, comme vous pouvez vous en douter. Un gendarme m'a reçu poliment tout à l'heure, entre deux portes. Il m'a gentiment expliqué qu'il venait, lui, d'apprendre la nouvelle, qu'il venait prendre son poste pour la soirée. Mais impossible d'en savoir plus. Un conseil, m'a-t-il dit, rappelez demain matin dès 8h les services de la présidence, car tous les bureaux sont fermés depuis maintenant 18h. Encore une fois, tout est calme ici, rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors effectivement, les seules maigres informations que j'ai pu avoir en arrivant il y a à peine une vingtaine de minutes, eh bien c'est qu'apparemment, effectivement, François de Grossouvre s'est donné la mort peu après 20h dans son bureau, un bureau qu'il occupait toujours désormais dans l'aile ouest du palais. Et c'est le médecin militaire qui a découvert le corps de François de Grossouvre peu après 20h, quelques minutes après son décès. Il gisait au pied de son bureau et il avait un revolver à portée de main, un revolver qui était à quelques centimètres de sa main. Les policiers sont sur place. La police judiciaire est arrivée très très rapidement à l'Élysée. Voilà les seules informations que j'ai pu recueillir ici. Mais pour l'instant, il y a un blackout total. Voilà.
Sur place, effectivement, les premiers enquêteurs de la police judiciaire procèdent aux constatations d'usage. Premier élément, il n'y a pas eu de témoin. Ni visuel, ni auditif. Personne ne semble en effet avoir entendu de coup de feu, ce qui est pour le moins troublant, compte tenu du fait que le 357 Magnum Manurin dont s'est servi François de Grossouvre est une arme à la puissance dévastatrice qui émet en général un bruit assourdissant lorsqu'on l'utilise. D'ailleurs, certains experts disent que le nombre de décibels est tel qu'il peut endommager un tympan si le tireur s'en sert dans un endroit clos sans casque de protection auditive. Alors certes, à l'heure de l'événement, les employés de l'Élysée ont en majorité quitté les lieux, mais il reste quand même du personnel de sécurité et un certain nombre de collaborateurs ici ou là. Alors on émet l'hypothèse que les portes capitonnées et les doubles vitrages ont pu faire office de silencieux. Mais alors, comment se fait-il que les gardes républicains qui assurent la sécurité extérieure du palais présidentiel sur l'avenue de Marigny n'aient rien entendu non plus alors qu'ils se trouvent à l'aplomb de l'unique fenêtre du bureau de François de Grossouvre située au premier étage? Cette fenêtre se trouve à moins de 3,50 m de hauteur, elle n'est pas insonorisée. Un garde au moins devait se trouver à moins de 10 mètres de là en comptant large. C'est un des premiers éléments troublants de cette enquête. Par ailleurs, les policiers qui relèvent les empreintes et le plan des lieux fouillent bien sûr minutieusement le bureau. Ils ne trouvent pas trace de documents ou de lettres d'adieu qu'aurait laissé l'ami du président pour expliquer son geste. Troisième élément troublant, il est relevé au lendemain de la mort de François de Grossouvre. Selon certaines informations, on apprend que le conseiller du président est en train de rédiger, à l'époque, des mémoires. Et on n'a pas trouvé trace de manuscrits, ni à l'Élysée, ni dans les appartements privés du 11 quai Branly, voisin du domicile d'Anne et de Mazarine Pinjot. Le décès de François de Grossouvre provoque une vague médiatique sans précédent. Peu à peu, on apprend que l'homme était en disgrâce, que son amitié avec le chef de l'État s'était lézardée depuis quelques mois. On apprend aussi qu'au cours des 15 derniers mois, François de Grossouvre, l'homme de l'ombre du président, détenteur de beaucoup de secrets intimes, avait rencontré un certain nombre de journalistes parisiens à qui il avait fait part des dérives affairistes du pouvoir. On sentait, diront ses témoins, un homme blessé. Certains de ses intimes y voyaient peut-être l'explication d'un suicide. Mais d'autres commençaient à se dire qu'on pouvait également constater que cette mort brutale mettait un point final à la menace d'un scandale, un scandale qui aurait pu ébranler le pouvoir.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Une pause tout de suite et nous retrouvons Dominique Labarrière, mon invité, qui évoque très longuement cette affaire dans son livre qui vient de sortir à la table ronde, Quand la politique tue.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, c'est Dominique Labarrière, journaliste indépendant qui publie à la table ronde « Quand la politique tue », où il revient, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur de très nombreux drames qui ont touché les hommes de pouvoir, on va dire, pour aller vite, qu'ils soient président, ministre ou simple homme politique ou leader politique. Et là, on parle donc de la mort de François de Grossouvre. En fait, je disais tout à l'heure que ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces récits, au-delà du fait divers, si j'ose dire, bon, expression est malheureuse, hein, donner la peine de tous les proches, mais au-delà de l'événement, c'est de remonter avant et de nous expliquer qui sont les gens et quels sont les liens qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Et là, François de Grossouvre, par rapport à François Mitterrand, c'est 35 ans d'amitié.
C'est d'abord une belle histoire. Alors François de Grossouvre, moi ce qui m'énerve beaucoup après la mort de François de Grossouvre, c'est qu'on ne sait plus en faire un portrait d'un homme assez falot, assez anodin, béat devant Mitterrand, pas très malin finalement. Et alors c'est tout le contraire. François de Grossouvre est quelqu'un de remarquable. Il a, pour une grande part, fait Mitterrand. Oui. Quand ils se rencontrent, c'est dans l'hiver 1959, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Mitterrand n'est plus rien politiquement et il n'est plus rien humainement.
Il y a eu l'attentat de l'Observatoire, etc.
Attentat de l'Observatoire et tout ça. Et que les gens ne se bousculent pas pour aller au secours de Mitterrand à ce moment-là. Il y a Madès France qui organise un déjeuner et François de Grossouvre qui, lui, a une vraie réussite d'industriel. Il a très bien géré les affaires de sa famille. Dès 1950, il s'associe avec un embouteilleur de Coca-Cola. Fallait quand même avoir du flair.
Il y a une sorte de coup de foudre amical, quoi, entre ces deux hommes.
Je pense que François de Grossouvre dit voilà un homme dont la destinée est à ma mesure. Et Mitterrand comprend qu'il peut utiliser Grossouvre, et de ce fait, si Mitterrand a utilisé Grossouvre,
il l'aide dans sa campagne électorale. Il l'aide la première fois que Mitterrand met De Gaulle en ballotage, il y a une campagne électorale.
Et à chaque fois, François de Grossouvre met la main à la poche. Il lui donne une espèce de stature internationale en l'emmenant voyager en Chine, notamment. Il ouvre le Moyen-Orient que François de Grossouvre connaît parfaitement bien. C'est un homme qui a apporté énormément à François Mitterrand sans jamais rien ne demander en échange. Faut pas oublier que François de Grossouvre est l'homme qui a été, comme le disait un conseiller de l'Élysée, le ministre de la vie privée. Il a abrité toute l'affaire Mazarine-Pinjot, le couple bis, le couple clandestin. Et faut bien remarquer, et ça faut lui rendre hommage à titre posthume, c'est que tant qu'il a été vivant, personne n'a pu sortir le scoop de l'existence de Mazarine. Et c'est bien à François de Grossouvre qu'on le voit, qui chaque fois est allé éteindre les incendies. Je peux vous raconter une anecdote. Il est allé avec une mallette pour désamorcer un hebdomadaire de cette droite voulait sortir l'affaire de Mazarine. Il a réussi à désamorcer ça en donnant une autre information. Il a beaucoup mouillé sa chemise. Il a créé Urbain Graco, la pompe à finances du Parti Socialiste. Oui. Donc dire aujourd'hui que c'était un homme, oui, simplement un mégalomane qui racontait des histoires...
Et une sorte de fan, de groupie.
C'est complètement injuste. L'homme est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil, et lui aussi un très grand séducteur. C'est là aussi ils se rejoignent.
Alors, vous dites ministre des Affaires Intimes, mais en fait, après sa mort, un certain nombre de personnalités se sont exprimées, d'ailleurs, sur l'antenne d'RTL, et on va entendre là le portrait très, très rapide que dressait de lui Claude Estier. Claude Estier était sénateur socialiste, et il dit sur l'antenne qu'il ne fallait pas oublier que François Le Grosso était aussi l'homme des missions discrètes, voire secrètes.
Son rôle officiel, qui était un peu une couverture d'une certaine manière, je crois qu'il s'occupait des chasses présidentielles. Mais François Mitterrand a certainement fait appel à lui à plusieurs reprises pour des missions plus ou moins confidentielles. Il a été dans plusieurs pays étrangers pour prendre des contacts avec des chefs d'État ou des choses qui étaient un peu en marge des relations diplomatiques officielles. Il était un homme de mission secrète ou de mission un peu marginale. Pour le compte de François Mitterrand, il a accompli plusieurs missions de ce genre.
Voilà, évidemment, des missions qu'on confie pas à quelqu'un comme ça qui serait totalement superficiel. Alors, il y a autre chose, c'est que, évidemment, vous revenez aussi sur les faits, sur les constatations. On en parlera longuement dans quelques minutes avec Claude Cancès, puisque c'est pas
que
rien.
Que j'ai rencontré pour ce livre.
Dont vous parlez d'ailleurs, et dont on lui demandera d'ailleurs de nous rappeler les arguments qu'il a, parce que c'est un homme, évidemment, qui est insoupçonnable, Claude Cancès, de rouler pour quelqu'un, fait son travail de flic, il a une éthique qui n'est plus approuvée. Et donc, évidemment, il a aussi l'esprit de l'enquêteur qui voit tout de suite, qui remet met ensemble les pièces du puzzle. Mais avant de lui donner la parole, vous vous dites, bon, il y a quelques étrangetés quand même, parce que c'est vrai que Grossouvre était quelqu'un qui aimait les armes, qui pratiquait les armes. Alors après, on a dit, oui, il a demandé des conseils pour savoir comment on pouvait suicider le mieux avec une arme à quelqu'un. Enfin, bon, ça paraît pas crédible. Il y a cette histoire que je rappelais là dans le petit récit, du fait que personne n'ait entendu. Il y a quand même des gens qui ont entendu des coups de feu, quand même. Un coup de feu.
C'est très intéressant, parce que, comme toujours dans ces cas-là, il y a plusieurs versions de la découverte du corps.
Bien sûr, il y en a au moins trois.
Il y en a trois que je relève dans mon livre, qui sont très intéressantes. Alors, une fois, on a entendu le coup de feu, une fois, on ne l'a pas entendu, et la plus crédible, c'est quand même la version de Daniel Cerdan, qui est le garde du corps, et qui, c'est lui qui, véritablement, qui ouvre la porte, comme vous le disiez très bien dans votre récit, et lui n'a pas entendu de coup de feu. Il n'a pas entendu de coup de feu. Mais dans sa déposition, il y a quelque chose d'intéressant dans les faits, et qui, moi, me plaît beaucoup, c'est-à-dire l'abandon de Mitterrand, Grossouvre. Mais pas du tout, parce que Daniel Cerdan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais pas trop surpris que François de Grossouvre ne soit pas là, parce que habituellement, il se trouve avec le président dans une autre partie du palais.
À cette heure-là, habituellement, il était avec le président.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas totalement l'abandon. Oui. Alors qu'il y a eu sentiment d'abandon, c'est possible, mais entre l'abandon effectif, vous savez, à ce moment-là, François Mitterrand ne va pas bien du tout. On est quand même en 94, le palais de l'Élysée, c'est un peu un palais désert, il ne se passe plus rien. Mmh. On est à un an de la fin du deuxième septennat. Mmh. Et donc, il y a une espèce de vide qui se fait, dont François de Grossouvre peut souffrir, mais il n'est pas plus abandonné que Pierre Bérégovoy un an plus tôt. Il n'est pas plus abandonné que beaucoup de gens. François Mitterrand, à ce moment-là, est dans une espèce de dialogue avec la mort. Alors, les choses comptent de moins en moins, la vie politique compte de moins en moins, et voit de moins en moins de gens. Comme vous le disiez très bien, il passe la journée avec des malades du sida. Il est fasciné par la mort, il est fasciné par les derniers instants. Il ne s'intéresse plus qu'à ça, sa mort, et peut-être éventuellement aussi à l'argent, pour reprendre ce que disait Grossouvre.
Alors, on va revenir aussi à ce point d'interrogation. J'appelais ça tout à l'heure la rumeur publique, qui dit c'est un suicide, mais c'est un crime et qui en suicide. Vous ne prenez pas parti dans votre livre, mais j'allais dire c'est presque pire, mais ça on en parlera tout à l'heure ensemble. En ce qui concerne l'enquête, on va avoir Claude Cancès dans un instant. Et puis ensuite, et c'est la magie de la radio et du direct, nous aurons le fils de François de Grossouvre qui écoutait l'émission.
Patrick de Grossouvre.
Patrick de Grossouvre, que nous prendrons donc vers 3h moins le quart.
L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Dominique Labarrière, pour ce livre qui vient de paraître aux éditions de la Table Ronde, Quand la politique tue. L'un des chapitres du livre est consacré à la disparition de François de Grossouvre au palais de l'Élysée en 1994, un an avant la fin du deuxième septennat. Évidemment, un suicide à l'Élysée, une mort à l'Élysée, quelque chose d'énorme. Et tout de suite, on imagine le branle-bas de combat dans la hiérarchie politique et policière. Et c'est Claude Cancès, qui est le patron de la PJ de Paris à l'époque, qui va être chargé de l'enquête. Et Claude Cancès est en ligne. Bonjour Claude.
Bonjour Jacques.
Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de revenir là-dessus. Évidemment, on n'est pas là en train de faire un quédo pour savoir, crime déguisé, suicide. C'est simplement pour revenir sur l'enquête qu'aborde d'ailleurs, puisque il vient de nous le dire, Dominique Labarrière, vous avez interrogé là-dessus. Cette enquête, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire avec le recul du temps?
Alors, avant toute chose, je voudrais dire que je comprends et je respecte le comportement des enfants de François de Grossouvre. C'est tout à fait normal, dans une affaire pareille, qu'ils mettent en doute la réalité du suicide de leur père. Deuxième point, Jacques Pradel, j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait vous transporter votre studio à l'Élysée, changer de titre, ce ne serait pas l'heure du crime, mais l'heure du suicide, et là, sur place, je pourrais, mieux que je ne peux le faire en quelques minutes, vous dire ce que nous avons fait, ce qu'ont fait mes collaborateurs plutôt, parce que j'étais directeur de la PJ, c'est mes collaborateurs qui ont travaillé, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait, leurs constatations, le témoignage de toutes les personnes qui ont entendu ou vu quelque chose, et le récit que vous avez fait tout à l'heure, vous vous rendriez compte à ce moment-là que vous nous avez fait un récit romanesque de cette affaire, qui est, je le maintiens, mmh. hélas, même si les, je dois décevoir la famille de Grossour, est un suicide.
Alors, par exemple, parce que évidemment, ce que vous dites se fonde sur un certain nombre de constatations. La grande différence entre vous et nous, c'est que vous connaissez évidemment le dossier dans ses moindres détails. Cet argument qui a été de dire oui, mais on a voulu faire taire cet homme qui écrivait ses mémoires, et puis d'ailleurs, on en a retrouvé une partie où il parlait de sa jeunesse, mais il manque quelque chose qui aurait pu faire peut-être sauter les républiques, pour reprendre une expression. Dont on a beaucoup parlé par la suite. Vous avez un argument de bon sens à propos de cet argument-là.
Oui, tout simplement. Je pense que François de Grossour, avant de se suicider, s'il avait voulu conserver, faire en sorte qu'on retrouve ce document qui allait nuire à la... comment dirais-je, à François Mitterrand, il aurait placé chez un ami ou chez un huissier, ou peut-être l'a-t-il fait avec, en donnant des instructions pour que ce document soit publié bien longtemps après. Mmh. Hein. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel on s'interroge surtout dans les affaires de suicide, c'est qu'on n'a pas retrouvé de lettres. Et effectivement, je vois mal François de Grossour laisser une lettre à l'évidence sur son bureau, sachant pertinemment qu'avant l'arrivée de la police, les gens de l'Élysée pouvaient la subtiliser.
Ouais, ce qui s'est passé quand même, parce que, pardonnez-moi, Claude Concès, pardonnez-moi, ce qui s'est passé quand même, puisque vos collaborateurs ont constaté que le bureau avait déjà été visité, on va dire, avant leur arrivée.
Non, pas du tout. Moi, mon premier contact, lorsque j'arrive, c'est le docteur Calfon, qui me dit, et c'est un docteur que j'ai mieux connu par la suite, en qui j'ai totalement confiance, il me dit, dès que il y avait un autre médecin à l'Élysée qui était avec lui, nous avons interdit l'accès du bureau dès que nous avons constaté le décès à tout le monde. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire que je n'y étais pas.
Non, mais il y avait le GSPR, les gens qui étaient chargés à l'intérieur du palais de l'Élysée de la sécurité.
Non, là, ils ont été avertis. Jacques, vous faites la confusion avec un second épisode, c'est le transport Kébranli au domicile de François de Grossour.
C'est possible.
Où il nous a été reproché de nous être transportés trop tard.
Ah, d'accord.
Et qu'avant notre arrivée, les gendarmes ont fait le ménage. C'est pas impossible qu'ils aient fait le ménage. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ménage? D'après ce que j'ai compris, mais encore une fois, je n'y étais pas. Oui. Il y avait la maîtresse de Grossour, à qui on a demandé de quitter les lieux. Oui. Et, s'ils ont fait le ménage, ils l'ont mal fait, parce que je peux vous assurer que tout était en ordre quand on est arrivé. Oui. Oui. J'ai été époustouflé de voir un nombre de fusils de chasse, d'armes de chasse. J'en ai jamais vu autant vu de ma vie. Oui. Et on a découvert surtout les cartouches qui avaient été extraites d'une boîte pour mettre dans le chargeur de 355. Okay.
Donc tous ces éléments-là, évidemment, font que, comme vous l'avez dit il y a un instant, pour vous, cette mort ne fait pas de... pour vous, il n'y a pas de doute quoi sur l'origine de cette mort, c'est un suicide.
Oui, c'est un suicide. Si vous voulez, un autre petit élément, vous faisiez allusion tout à l'heure à ma manière de travailler, mon intégrité, etc.
Ben oui.
Il y a un autre personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est le procureur de la République, Bruno Cotte. Tous ceux qui ont connu Bruno Cotte, sa conscience professionnelle, son intégrité, son impartialité, vous diront que c'était un magistrat hors pair. Et vous savez, le 11 avril, et je vais être un petit peu long, mais Jacques, je crois qu'il faut que je vous lise, pour la première fois, il ne m'en voudra pas, Bruno Cotte, je lis cette lettre qu'il m'a adressée le 11 avril 1994. « Monsieur le directeur, je tiens à vous exprimer ma satisfaction pour les conditions dans lesquelles la direction de la police judiciaire s'est acquittée de l'enquête qui lui a été confiée par mon parquet le 7 avril 1994 au soir à la suite du décès de François de Grossour. La qualité des diligences effectuées, la célérité avec laquelle elles ont été accomplies, mérite d'être soulignée. Je vous saurai gré d'en faire part, monsieur le commissaire, Servigny-Jean, monsieur Guillaume. » Vous savez, le procureur de la République, quand on connaît Bruno Cotte, qui se permet, qui se mouille en envoyant cette lettre manuscrite que j'ai retrouvée dans mes archives,
ouais.
Ça veut dire que on a mené une enquête avec la plus grande rigueur et tout ce qui est dit, oui, et c'est, ce n'est pas du pipeau ce que je raconte là. C'est pas du tout du pipeau, c'est pas de la flûte, non.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, merci infiniment. C'est pour ça qu'on avait envie de vous entendre, et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer, en tout cas, sur cette partie que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous étiez en charge de l'enquête. Merci Claude Cancès. Et on va retrouver donc Patrick de Grosso tout à l'heure. Là, on va faire une pause tout de suite, un peu de musique, et on revient avec Dominique Labarrière sur ce livre dont on parle aujourd'hui, Quand la politique tue.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Dans quelques secondes, nous prenons en ligne Patrick de Grosouvre, qui écoutait cette émission tout à l'heure et qui nous a appelé au 3210. Juste avant de lui donner la parole, Dominique Labarrière, une réflexion, parce que je vous voyais sursauter en écoutant Claude Cancès tout à l'heure.
Oui, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause l'intégrité des policiers, de la PJ, tout ça, mais il faut regarder les faits. Quand on regarde les faits, on regarde aussi les horaires. C'est très important, les horaires, dans une affaire criminelle. Entre le moment, l'heure à laquelle on découvre le corps de François de Grosouvre dans son bureau et l'heure à laquelle on téléphone à la PJ, il s'écoule plus d'une heure, plus le trajet de la PJ à l'Élysée. Pendant cette heure, il est faux de dire que personne n'est allé dans le bureau. On sait que Charras était là, on sait que les gens du GSPR étaient là.
Une heure. GSPR, c'est le groupe de sécurité de la présidente de la République,
dirigé par Proutot.
Proutot, voilà, d'accord.
Largement le temps d'enlever quelques papiers, d'enlever des documents, notamment un coffre-fort d'1m50 qu'on n'a jamais retrouvé, qui était dans ce bureau. Ce même groupe de gendarmes se retrouveront ce qu'est Branly avant la PJ. Donc la PJ est arrivée après les deux fois et non pas une seule fois. Cela dit, qu'un procureur de la République, écrive une belle lettre à un policier qui n'a rien découvert de troublant sur une mort à l'Élysée, ça me convient tout à fait.
Alors,
ça me surprend pas.
Maintenant, nous allons prendre en ligne Patrick de Grosouvre. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Écoutez, je vous remercie de me laisser intervenir. Et je remercie aussi Monsieur Labarrière pour sa dernière intervention qui reprend certaines choses que je voulais dire. Moi, je voudrais revenir sur trois aspects.
Oui.
Un, c'est un certain nombre de faits qui ont été consignés dans le rapport de police et qu'on oublie de plus en plus facilement, ou qu'on transforme ou qu'on déforme. C'est ce qu'a fait à plusieurs reprises le garde du corps. Donc, dans les faits, premièrement, vous l'avez cité, vous l'avez dit, c'est le bruit du coup de feu.
Oui.
C'est absolument impossible. Je sais pas, vous me demanderez si vous voulez plus de détails, mais c'est absolument impossible. Moi, j'attendais mon père souvent assis dans un fauteuil de l'autre côté de la porte capitonnée. J'entendais parler à l'intérieur. Ouais. Donc, le bruit du coup de feu, c'est impossible que personne ne l'ait entendu.
D'accord.
Deuxièmement, la luxation avant de l'épaule gauche. Mon père, comme le fait apparaître l'autopsie. Ouais.
Alors qu'il est droitier, hein, c'est ça.
Alors qu'il est droitier, qu'une luxation avant de l'épaule gauche, ça se fait en tordant le bras vers l'arrière et en faisant sauter l'articulation par l'avant. C'est en tout cas ce que m'ont dit des médecins. Maintenant, si comme on peut penser que le rapport d'autopsie, à juste titre, dit que c'est la violence de la détonation qui a fait avec une arme tenue dans la main droite qui fait sauter l'articulation de l'épaule gauche.
Oui. Donc ça, pour vous, ça tient
pas. Supposons, c'est déjà compliqué à comprendre. À ce moment-là, on ne comprend pas que l'arme soit pas tombée de sa main. Elle était trouvée dans sa main.
D'accord.
C'est ce qu'a noté un certain nombre de gens.
Ouais.
Ensuite, dans les faits qui ont été repris après, à l'heure de sa mort, à quelques minutes près, 4 heures près, il a eu une conversation très longue avec un graveur sur arme qui s'appelait Yvan Thierry pour lui parler des gravures qu'il souhaitait sur les armes qu'il lui avait confiées.
Oui, et il a écrit, cet homme a reçu une lettre et un chèque de votre père après sa mort.
Il a envoyé la copie du petit mot que lui avait envoyé mon père, posté à 18h pour lui envoyer son chèque. Et il l'a eu ensuite en lui disant, je vous ai envoyé de chèque, mais voilà exactement ce que je voudrais, et voilà. On se revoit d'ici peu
d'ici,
pour en
d'ici la fin du mois, oui, d'accord. Oui. Bon. Alors, oui, effectivement, bon, ça sont des arguments d'ailleurs qui sont dans le livre de, que reprend Dominique Labarrière, hein, dans son livre. Vous voulez dire quelque chose à Patrick de Grossouvre?
Je suis toujours très, très ému quand j'entends quelqu'un de, proche de la famille. C'est pareil avec la famille de Pierre Bérégovoy, parce que je comprends tellement l'émotion que ça presque j'en suis dérangé, troublé en tout cas. C'est une grande émotion. Mais c'est toujours, et quand on pense à la famille, ça nous aide, nous, beaucoup, journalistes, à travailler dans l'intégrité et dans la pondération.
Oui. Alors, Patrick de Grossouvre, je suis obligé, j'ai un œil sur la pendule. Je voudrais vous poser une dernière question. Au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que il y a une action judiciaire quelconque de votre famille encore possible? Est-ce que vous souhaiteriez que qu'on ouvre une information judiciaire sur cette mort? C'est plus possible maintenant.
Chaque fois que j'ai posé la question à des spécialistes, les éléments que je soulève, ils sont tous depuis le début dans le dans les documents, dans le dossier du procureur de la République. Enfin, à part la conversation avec le graveur sur arme. Bon, donc, est-ce que quelqu'un peut revenir là-dessus alors que c'était jugé que le procureur a conclu avec certitude au suicide. Voilà. Ensuite, il y a eu le monsieur Cancès l'a dit, lui aussi a eu la fouille dans l'appartement. Il y a aussi eu une espèce de, on peut appeler ça un tox quand même, qui sur la personnalité, sur les fonds de la personnalité de mon père, parce que compris le président.
Oui, ça, on en a parlé. Excusez-moi de vous couper parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. Je vous remercie. On peut pas aller plus loin là. Moi, je voudrais renvoyer simplement tous ceux qui nous ont écoutés et viennent de vous écouter au livre de Dominique Labarrière qui reprend les arguments que vous venez d'évoquer. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, monsieur de Grossouvre.
Bon, merci de m'avoir donné ces quelques minutes.
C'est gentil. Merci beaucoup. Tout dernier mot. Dominique Labarrière, vous terminez ce chapitre en disant, bon, alors meurtre, suicide, si ce sont des suicides, c'est presque pire que si c'était des meurtres.
Oui, si ce sont des... Moi, je ne veux pas trancher dans ce livre-là, ces affaires-là. Je veux simplement présenter des hommes et des destinées remarquables. Mais si ces suicides-là, Bérégovoy, le capitaine Guézou et François de Grossouvre, si ils se sont suicidés, c'est presque aussi accusateurs, même plus accusateurs que s'ils avaient été assassinés. Ça veut dire qu'ils en avaient vraiment lourd sur eux-mêmes pour avoir vécu ce que Baril disait, 14 ans de coup tordu. 14 ans de coup tordu sur deux septennats.
Merci beaucoup, merci à vous. Dominique Labarrière. Merci. Je rappelle donc le titre de ce livre paru aux éditions de la Table Ronde, Quand la politique tue. L'émission est terminée et on va retrouver Flavie Flamand dans quelques instants.